Bonjour Toufik, bonjour à tous. La scène surréaliste a été filmée par des passagers. On y voit une voiture folle entrer sur les pistes de l'aéroport de Lyon. Le conducteur a été arrêté sans qu'on connaisse pour l'instant ses motivations. Cela s'est passé hier. Mais cela pose la question de la sécurité sur le tarmac. Nous y reviendrons. Richard Ferrand est bien parti pour présider l'Assemblée nationale. Il a été adoubé par la majorité En Marche hier. Mais certains, vous l'entendrez, veulent plus de liberté lors de cette nouvelle année parlementaire. Dans cette édition aussi, nous irons à Vladivostok, à l'extrême est de la Russie. Les grandes manœuvres militaires russes y débutent avec 300 000 soldats mobilisés. Et puis nous irons à Washington où Donald Trump a reçu hier une lettre de Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen propose à son homologue américain un deuxième sommet. Comment une voiture a-t-elle pu entrer si facilement sur les pistes de l'aéroport de Lyon? Un homme de 31 ans a été arrêté hier après avoir foncé dans l'aérogare, puis sur les pistes de Lyon-Saint-Exupéry, blessant légèrement une personne. Le suspect n'a aucun antécédent judiciaire et n'a pas été signalé pour radicalisation, mais il serait atteint de troubles psychiatriques. Une intrusion spectaculaire qui pose question sur la sécurité des aéroports français, Philippe Randet.
Un homme en voiture qui traverse l'aérogare avant d'entrer sur les pistes. Les experts sont unanimes. Ce qui s'est passé à Lyon est inédit. Gérard Felzer est spécialiste en aéronautique.
C'est un avertissement sans frais. Même dans un film, on n'aurait pas osé le montrer. Il l'a fait. Alors, ça veut dire qu'il y a des trous dans la raquette et qu'il faut trouver des solutions.
Il y aura un avant et un après 10 septembre 2018 pour les aéroports français. C'est aussi l'avis de Jean Serra, ancien pilote de ligne.
Il y a des normes de sécurité extrêmement importantes sur tous les accès vers les pistes. Un mécanicien seul, lorsqu'il veut entrer sur la piste pour s'occuper d'un avion, il arrive devant une porte où il y a une herse au sol qui crève les pneus, donc il est obligé de s'arrêter. Les gendarmes, avec des miroirs, regardent sous son véhicule. Il y a un endroit qu'on n'avait pas sécurisé, c'était l'accès dans l'aérogare elle-même. Il faudra très probablement mettre des plots devant les différentes portes des aérogares pour éviter que cela se reproduise.
Et Jean Serra le dit, même si ce genre d'événement paraît beaucoup plus difficile à imaginer à Roissy ou à Orly, il est clair que chaque entrée d'aérogare en France va maintenant être étudiée pour bloquer toute éventuelle tentative de forcer le passage avec un véhicule.
Alexandre Benalla sera bientôt auditionné par la commission d'enquête du Sénat. Il l'a lui-même annoncé, évoquant la date du 19 septembre. L'ancien membre du cabinet du président de la République est mis en examen, je vous le rappelle, pour violence en réunion en marge du rassemblement du 1er mai dernier. Une affaire qui a par ailleurs précipité la nomination d'un nouveau directeur général des services de l'Élysée. Il s'agit de Jérôme Rivoisi, ancien directeur adjoint de Pôle emploi. Richard Ferrand est en passe de devenir le prochain président de l'Assemblée nationale. Sans surprise, il a décroché hier l'investiture des députés La République En Marche dès le premier tour. Richard Ferrand est maintenant confronté à deux députés EES de l'opposition pour un vote final prévu demain par l'ensemble des députés. Mais la majorité devrait lui redonner sa confiance, lui qui est proche d'Emmanuel Macron. Faut-il toutefois penser que les députés En Marche resteront cette année parlementaire encore aux ordres de la présidence? Mathieu Orphelin, ancien d'Europe Écologie Les Verts, réclame par exemple quelques corrections.
On peut avoir et être encore plus que la première année force de proposition. C'est pas faire injure au gouvernement que d'avoir un parlement majoritaire fort. Et moi je crois que c'est ça qu'il faut porter aujourd'hui. Avoir des avancées supplémentaires amenées par les députés de la majorité. C'est à la fois un changement de philosophie que le gouvernement doit avoir et que nous, dans la majorité parlementaire, nous devons avoir. On peut proposer des évolutions pour qu'on puisse collectivement avoir un nouveau mode de fonctionnement dans ce groupe. Et moi, je vais faire des propositions très claires pour qu'on puisse s'y retrouver mieux collectivement. On a peut-être un peu dramatisé à chaque fois les quelques votes contre, les quelques abstentions. Je crois que tout ça, on peut changer notre mode de fonctionnement, être plus zen. Je crois que ce qu'il faut, c'est préserver la biodiversité du groupe.
Le député Mathieu Orphelin avec Alexandra Dubouchereau. L'état d'esprit des députés de la majorité à la veille de la rentrée parlementaire, c'est le sujet du reportage de France Culture ce matin, diffusé à 7h24. À l'Assemblée nationale encore, un groupe change de nom en cette rentrée. Exit la nouvelle gauche, revoilà les socialistes, socialistes et apparentés plus exactement. La proposition a été validée par un vote à l'unanimité hier à l'occasion des journées parlementaires du Parti Socialiste. Brest. C'est la grand-messe de l'élevage français, le 32e SPAS, le salon des productions animales, s'ouvre aujourd'hui à Rennes. L'occasion pour nous de faire le point sur une filière qui est quelque peu en difficulté en ce moment, entre la sécheresse, la baisse de la consommation de viande et les critiques virulentes des militants antispécistes les plus radicaux. Invité du journal de 22h hier soir, Gérard Youf, agroéconomiste de l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Ces changements de comportement ne mettent pas pour l'instant, dit-il, l'élevage français en péril.
Côté de la viande bovine, c'est vrai que la consommation par habitant a tendance à baisser régulièrement. Mais en France, il y a quand même une démographie positive, ce qui atténue un petit peu cette tendance baissière. La question, c'est effectivement la montée en puissance des mouvements végans, d'un encouragement d'une consommation moins carnivore. Quel impact elle va avoir sur finalement la consommation interne. Donc c'est vrai que ça interroge, ça inquiète les maillons, notamment de la filière viande bovine, qui à la fois intègrent ces éléments, mais en même temps veulent promouvoir des viandes à partir de systèmes de production quand même relativement extensifs en France, à partir pour le troupeau allaitant d'une valorisation quand même essentiellement de l'herbe et des fourrages. Donc c'est pas forcément un drame dès lors que les circuits de distribution français privilégient la viande française.
L'agroéconomiste Gérard Youf avec Stanislas Vazak. Plus de 100 personnes sont mortes dans le naufrage de deux bateaux de migrants au début du mois au large des côtes libyennes. Parmi les victimes, Médecins sans frontières évoque au moins une vingtaine d'enfants. Sur ces deux bateaux pneumatiques qui ont quitté la Libye le 1er septembre dernier, seules 55 personnes auraient survécu. Le Parlement européen peut décider aujourd'hui de l'opportunité de déclencher ou non une rare procédure de sanction contre la Hongrie. Elle punirait ainsi un risque clair de violation grave des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée. Le Premier ministre conservateur Viktor Orban va plaider sa cause ce matin à Strasbourg devant les députés européens. 300 000 soldats russes se déploient dès aujourd'hui en Sibérie orientale autour de Vladivostok. C'est le début des grandes manœuvres annuelles de l'armée russe, en collaboration cette année avec le contingent de l'armée chinoise. Ces exercices grandeur nature devraient utiliser plus de 35 000 véhicules militaires, des chars d'assaut aux navires de guerre, histoire de montrer la puissance russe, Claude Bruyot.
Au-delà des contingents records de soldats d'infanterie, de la marine ou encore de l'aviation, l'armée russe va surtout profiter de ses manœuvres lointaines pour déployer ses derniers équipements les plus sophistiqués. Des missiles Iskander, par exemple, déjà installés à Kaliningrad à l'ouest, seront de sortie en Sibérie orientale, les derniers modèles de chars d'assaut T-90 également, ou encore les avions de combat Sukhoi 35. Le tout sous les yeux d'observateurs occidentaux conviés à assister aux démonstrations au cours desquelles sera figuré un ennemi venant de l'ouest, sans autre précision. Sergueï Shoigu, le ministre russe de la Défense, ayant demandé, je cite, « des situations d'évolution sur les théâtres d'opération aussi proches que possible de la réalité d'un conflit armé ».
Et quand certains s'exercent à la guerre, d'autres affichent leur volonté de faire la paix. Trois mois après leur rencontre à Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un font savoir qu'ils pourraient bientôt se revoir pour un prochain sommet. La Maison-Blanche a révélé hier soir que le président américain avait reçu une lettre à la fois chaleureuse et positive de la part du dirigeant nord-coréen Gregory Phillips.
Le contenu de ce courrier adressé par Kim Jong-un à Donald Trump n'a pas été dévoilé, mais la Maison-Blanche fait savoir que la Corée du Nord propose une nouvelle rencontre entre les deux hommes et que les deux pays sont en train de se coordonner pour l'organiser. Trois mois après Singapour, les deux dirigeants prévoient donc de se retrouver, même si leur première entrevue n'a débouché que sur très peu de résultats concrets. Début août, un rapport remis au Conseil de sécurité établissait que les Nord-Coréens poursuivaient en fait le développement de leur programme nucléaire et balistique, et Trump avait alors, au dernier moment, annulé une visite de son secrétaire d'État Pompeo prévue à Pyongyang en raison de ses progrès insuffisants. Mais la toute nouvelle relation américano-nord-coréenne est décidément très irrégulière. Avant-hier, le président américain Trump se montrait à nouveau optimiste après avoir remarqué que pour célébrer le 70e anniversaire du pays, les Nord-Coréens s'étaient abstenus de faire défiler des missiles balistiques intercontinentaux. Sur Twitter, Trump a remercié Kim et maintenant il y a donc ce projet de seconde rencontre entre les deux dirigeants. La date et le lieu n'ont pas été annoncés.
L'ouragan Florence se rapproche dangereusement de la côte est des États-Unis. En ce moment, il devrait l'atteindre dans 2 jours. 3 États pour le moment sont en état d'urgence et 1 million d'habitants ont été appelés à se réfugier dans les terres. Peu de vent et un grand soleil, voilà pour la météo en France métropolitaine ce mardi. Les quelques nuages bretons vont disparaître à la mi-journée et le soleil donne des températures en hausse. 18 degrés ce matin à Brest, 20 à Lille, 23 à Paris-Bordeaux, 24 degrés à Lyon, 28 dès ce matin à Perpignan et comptez 24 à 32 du nord au sud cet après-midi.